invité, une playlist. Un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Tour de Piste. Pour terminer cette année civile en beauté, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir la poétesse folk Karen Lanneau, accompagnée du musicien Olivier Le Gall. Pendant cette heure de direct, nous reviendrons sur le parcours riche de Karen, qui après des débuts avec le groupe de rock K, a multiplié les collaborations et a sorti l'année dernière un album long format intitulé Muse, un disque solaire, doux et mystique, construit comme un voyage qui, sur 10 titres, déroule un folk sans âge aux accents baroques. Karen et Olivier, bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous en direct et jusqu'à 21h sur les ondes de Principe Actif.
Bonsoir, merci de nous accueillir.
Bonsoir.
Alors première question à tous les deux pour ouvrir notre échange, vos oreilles d'enfant ont grandi avec quels sons ?
Alors moi c'est des sons de cinéma. C'est plutôt des bandes originales de films et notamment de comédies musicales. Et je vais en citer une en particulier qui a occupé une très grande place dans mon imaginaire d'enfant, qui est Chantons sous la pluie.
Belle référence. Olivier ?
Moi, j'ai découvert un peu plus tardivement la musique de manière active. Et je pense que mes grosses claques d'enfance, c'est Hendrix.
Hendrix, qui a fait son premier concert officiel au monde avec Expérience, à Évreux, le 13 octobre 1966. Et alors le disque après qui provoque un choc, il y en a toujours un en marge de ce qu'écoutaient nos parents, alors généralement à l'adolescence. Le disque qu'on découvre seul, pour toi Karen, c'était lequel ?
Alors je pense que peut-être le premier choc, c'était vraiment jeune adolescente, j'ai découvert les Stones. Et notamment le live qui s'appelle, je crois, Get Your Years Out. Et en fait, cette espèce d'énergie pure, complètement folle et pas toujours maîtrisée, hein, parce que les Stones sur scène, c'était quand même parfois très hésitant. Mais justement, cette espèce de folie, c'est quelque chose qui m'a complètement emportée. Donc c'est un live des Stones.
Et alors, puisqu'on parle de rock, Olivier, toi tu viens de Brest, une ville assez rock, il me semble. Ouais, hein. Enfin, la Bretagne en général a été un sacré déclencheur dans le domaine. Le premier disque choc à l'adolescence ?
Moi, je vais redire Hendrix.
Tu vas redire ?
Ouais. Après, c'est pas très original.
Il y a plusieurs guitaristes. Hein, il a fait quand même pas mal de...
Il y a de quoi faire aussi avec Hendrix.
Non, mais je suis guitariste et forcément, on peut pas passer au travers. Après, on en fait un peu ce qu'on veut, mais je me souviens découvrir Hendrix et pas comprendre trop ce qui se passait, quoi.
Ouais.
Et c'était, je pense, un live à Woodstock qui était vraiment dégueulasse. Le son est vraiment dégueulasse, mais c'est incroyable l'énergie, la folie, la création constante. Il y a un truc qui est en train d'être créé à chaque instant, quoi.
Alors tous les deux, Karen et Olivier, vous travaillez en étroite collaboration depuis quelques temps. Comment vous répartissez le travail ?
Alors, on travaille pas mal sur la co-composition, tous les deux. Moi, j'apporte soit une mélodie avec un texte. Voilà, en général, ça peut partir vraiment de là. Et ensuite, on travaille avec Olivier à habiller tout ça avec des accords. Donc, Olivier me propose des couleurs. Et puis ensuite, on va élaborer ça ensemble. Et la chanson va naître de cette manière. Ou alors, Olivier, de son côté, régulièrement, il a des suites d'accords qui lui viennent. Donc, il va poser ça dans un mémo. Il va me l'envoyer en me disant, tiens, peut-être tu peux écrire quelque chose là-dessus. Est-ce que ça te parle ? Et en fait, voilà, on dialogue un peu de cette manière. Je t'apporte quelque chose et on voit ce que tu peux faire dessus. Et inversement. À savoir que le critère final, c'est finalement que ça plaise à tous les deux. Il y a il y a des chansons qu'on n'a pas gardées, alors qu'elles étaient quand même assez abouties dans un sens ou l'autre, mais parce qu'au final, le rendu de la chanson, comme ça, en guitare-voix, toute nue, ça nous plaisait pas forcément, on l'a pas gardée.
Avec un père pianiste, t'as commencé quand l'apprentissage de la musique ?
Alors, mon père est pas pianiste de profession. Hein. Il faisait du piano à la maison par passion. C'était vraiment pour lui. C'est d'ailleurs intéressant par rapport à la place que ça occupe parce que pour lui c'était vraiment un exutoire. Mais mon père était pas du tout là-dedans. Il était dans un métier très très terre à terre. Et du coup, pour moi, je pense que dans mes yeux d'enfant, ça a eu très rapidement cette connotation, en tout cas d'exutoire. Il rentrait du travail, il était rincé, il avait souvent des situations assez difficiles au boulot. Et il se mettait au piano et alors là, toute la maison commençait à vibrer des airs qu'il pouvait jouer. C'était souvent la plupart du temps, c'était des standards. Et donc, je pense que pour moi, c'est la fonction aussi, avant même la discipline de la musique, ce que ça implique comme métier. Mais c'était déjà le fait d'avoir un espace comme celui-là, dans lequel on peut mettre tous ses soucis, toutes ses contrariétés et en faire un moment de joie.
Ta maman germano-hongroise t'a légué quels éléments de sa culture qu'on peut retrouver peut-être dans ta musique, s'il y en a d'ailleurs?
Alors, je sais pas, ça s'est pas fait d'une manière très ouverte dans la transmission, c'est-à-dire c'était pas conscient. En revanche, ce qui est largement passé, je pense que c'est la culture de l'ailleurs. C'est-à-dire le voyage, les cultures différentes, les légendes qui accompagnent ces cultures-là. Et ma mère, en elle-même, en fait, a une vie qui ressemble à un roman. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on lui répète régulièrement, qu'elle devrait écrire le roman de sa vie, parce que c'est une histoire un peu folle d'exil, de quitter son pays, la Hongrie. Et de s'installer dans un autre pays. Et du coup, je pense que ce qui m'a vraiment imprégnée, c'est les voyages et le fait que toute petite, on naviguait beaucoup entre la France et l'Allemagne parce que sa famille ensuite s'est installée en Allemagne à partir des années 60. Et donc voilà, pour moi, c'était très très habituel de passer d'une langue à l'autre, d'une culture à une autre, de voyager et de connaître un petit peu cette différence de culture.
Par le nord, par la ville, tu jusqu'à mes chevilles, jusque dans mes bras, je n'ai pas peur du soleil rouge ni de l'horizon.
titre de Karen Lanoux que vous venez d'écouter s'appelle Sirocco, il est extrait de Muse, un album long format sorti l'année dernière. Alors Karen, il y a dans ta musique comme un élan de musique sacrée. La musique sacrée figure-t-elle en bonne place dans ta culture musicale?
Absolument pas. Je pense, non. Je m'aventurerai pas là-dedans. Je pense que c'est un élan spirituel peut-être qui transparaît à travers cette notion de musique sacrée dont tu parles. Mais j'ai une culture qui est principalement instinctive, donc je pourrais pas te dire qu'il y a des musiques qui m'ont plus influencé que d'autres à ce niveau-là. La musique sacrée, non.
Alors tu cultives aussi l'ambiance des contes dans ta musique. Quels contes t'ont le plus touché et marqué de l'enfance à aujourd'hui? Je poserai aussi la question à Olivier.
Alors j'avais un livre qui était un livre des contes de Perrault. Et je me souviens être restée pendant des heures à regarder les dessins qui étaient magnifiques. Je me souviens malheureusement plus de l'illustrateur ou l'illustratrice. Mais je sais que ça a beaucoup alimenté mon imaginaire. Et puis après, il y a tous les dessins animés qu'on connaît. Voilà, les Disney, mais pas que. Il y a aussi les Miyazaki. Et... Je pense que peu de temps après, quand j'étais adolescente, j'ai découvert aussi les Dames du Lac et les Brumes d'Avalon. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il y a quelque chose comme ça dans l'élaboration de mondes un peu parallèles avec leurs codes, leurs histoires et leur culture qui m'a beaucoup, beaucoup séduite.
Et Olivier, toi, c'est quelque chose qui est partie intégrante de ta culture, le conte?
Pas particulièrement, mais je me rends compte que je suis assez sensible à tout ce qui est grandes histoires, mythes, c'est-à-dire des choses, finalement, des histoires simples qui parlent à tout le monde. Je vais répondre à la question d'avant sur le sacré.
Je rappelle que t'es breton, hein, que le conte et les sortilèges, etc., c'est très présent. Hein, dans
ta région. Ouais, bah, je pense qu'indirectement, ça a dû passer par chez moi, hein. Mais je pense que pour revenir rapidement sur le sacré, moi j'ai pas une culture croyante très forte, mais j'ai été très fan par exemple de Ben Harper, et quand je réécoute maintenant Ben Harper, à l'époque ça me parlait pas, mais je vois que c'est quelqu'un qui avait quelque chose de l'ordre du sacré, ouais. Très profond pour lui, quoi. Là,
oui, c'est vrai.
C'est l'âme, quoi. C'est la soul. On sort d'une émission de soul.
Kendrick, d'ailleurs, avait à sa manière.
Bien sûr. Mmh. Et pour moi, la musique, c'est ça. C'est quelque chose qui vient chercher quelque chose d'assez flou, mais qui est au fond du corps, là, comme ça, qui parle à tout le monde et qui vient...
Une espèce de force qui nous est un peu supérieure.
Ouais.
Oui, c'est vrai que... Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je l'ai pris de manière très littérale, la question, au sens vraiment historique, mouvement musical. Et c'est vrai que je rejoins complètement Olivier sur cette histoire de spiritualité très, très présente. Enfin, je l'ai mentionné tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous anime beaucoup tous les deux. Quelqu'un, un jour, en sortant d'un concert, m'a dit « Tu fais une musique qui parle à l'âme ». Et en fait, au début, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et petit à petit, j'ai intégré le fait que en tout cas, c'est une musique qui souligne l'importance d'avoir un lien à la fois avec le vivant, mais aussi avec l'invisible, c'est-à-dire tout ce qu'on comprend pas. Et de constamment peut-être rester dans une forme d'ouverture et de questionnement face à ça. Donc je pense qu'effectivement cette notion de sacré, cette importance-là, cette dimension du spirituel dont tu parles chez Ben Harper, je la retrouve chez plein d'artistes que j'aime aussi et qui mettent vraiment résolument ça en avant dans leur musique et dans leurs textes.
Et on va poursuivre la programmation musicale avec un titre, cette fois-ci tiré de Sortilège. Ça s'appelle L'Ange. Je vous laisse nous en dire quelques mots, Karen et Olivier.
Alors L'Ange, c'est une chanson que j'ai écrite pour parler du deuil sous toutes ses formes. Le deuil qui peut apparaître face à la maladie, face à la perte de quelqu'un, face à la rupture, ou tout simplement le fait qu'on ait perdu son travail. Il y a tous ces deuils-là qui jalonnent notre existence. nos existences et qui fait que il y a des moments où on se sent complètement vidé de vie. Et le texte, en fait, décrit un peu, fait un peu une métaphore autour de ça, le fait que ça nous fige un peu comme une statue et que petit à petit, face à la vie qui vient et qui finit par reprendre le dessus, on sent que voilà, elle recommence à circuler en nous, que on a de nouveau envie, que on a voilà envie de se lever, envie de d'aller vers de nouvelles aventures. Ça parle de cette étincelle là qui suit un deuil.
Oh,
Extrait de Sortilège, c'était Karen Lanoul avec le titre L'Ange. Donc Karen, à 20 ans, tu franchis le pas en intégrant le groupe de rock K-H à accent circonflexe. D'abord en tant que choriste, puis ensuite en première ligne au chant. Quels enseignements as-tu tiré de cette expérience rock?
L'enseignement de la famille, parce qu'un groupe de rock, c'est avant tout une famille. C'est voilà, c'est un peu quand on a 20 ans, c'est un peu à la vie et à la mort. On fait tout ensemble, on connaît toutes les galères, on fait les tremplins, on connaît les espoirs, les déceptions. Et pour moi, ça a été un enseignement. Voilà, c'est l'amitié, l'importance que l'amitié occupe toujours dans ma vie aujourd'hui. Ça fait partie des valeurs premières pour moi. Et l'expérience de la scène aussi. Donc ça a été une très belle expérience qui a duré plusieurs années, qui m'a beaucoup, beaucoup appris.
La musique, c'est d'abord des rencontres pour vous, toi et Olivier?
Oui.
Tu dirais la même chose?
Oui, ouais. Moi, j'ai un peu cette expérience-là aussi du groupe ado, passer des après-midi à faire de la musique, à s'amuser, à rigoler, à découvrir. À essayer
des choses.
Ouais,
à essayer des choses. Puis l'avantage du rock, c'est que, enfin, je sais plus quel journaliste disait, l'incompétence peut faire école dans le rock. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire 20 ans de conservatoire, on peut monter avec un groupe avec des potes et se marrer et trouver ça génial et y croire et c'est super.
Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur les Stones. C'est vrai que quand tu regardes techniquement les Stones par rapport à un groupe comme Led Zepp,
c'est pas forcément
techniquement
fou,
ils sont moins, et pourtant, il y a quelque chose de magique quand ils jouent ensemble.
Alors, tu as collaboré avec le contrebassiste, multi-instrumentiste et chef d'orchestre Daniel Ivinek, qui a d'abord réalisé ta première maquette. Qu'est-ce qui t'a apporté dans ton parcours de musicienne, Daniel Ivinek?
Bah, Daniel, ça a été comme un parrain pour moi. C'est-à-dire que je sortais justement de mon cocon de groupe de rock. J'étais très naïve. Et finalement, Daniel, c'est vraiment une personne qui m'a présenté à des musiciens professionnels, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a accompagnée vraiment dans mon entrée dans le monde professionnel. Donc ça a été voilà, une personne qui a eu une place importante en gros, parce qu'il y avait quand même un gros décalage pour moi. J'ai été projetée quand même dans ce monde de façon assez abrupte, puisque très rapidement, après avoir fait des maquettes, j'ai été signée en label. Ensuite, j'ai travaillé avec l'Orchestre National de Jazz et j'ai été confrontée à des grosses scènes. Donc, c'était tout de suite, j'ai été projetée comme ça d'une manière très, très forte dans le monde de la musique. Et voilà, Daniel était un peu un garde-fou comme ça, un phare.
Un protecteur un peu.
Oui, un parrain, vraiment.
Alors, l'anglais a la réputation d'être une langue plus élastique que le français, alors plus facile à travailler. Alors, je posais la question à la chanteuse et parolière. Toi qui as souhaité que ce deuxième album soit en français dans le texte, est-ce que tu partages cet avis? Puis je poserai aussi la question à Olivier. Le français, est-ce que c'est une langue qui est plus difficile à travailler pour la composition et l'écriture que l'anglais?
Alors oui, c'est disons que c'est une approche qui est différente. Dans l'anglais, il y a une musicalité qui s'impose parce qu'il y a beaucoup de sons qui sont diphtongués et du coup, la voix peut rapidement jouer avec. Alors que le français, c'est une approche qui est plus à la fois rythmique et avec un travail sur la liberté, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir accéder à un style d'écriture qui va pouvoir ouvrir des voies de liberté. Donc ça, c'était pour moi, c'était un peu le challenge. C'était pour ça que je l'avais pas fait jusqu'à présent, c'est que j'avais pas vraiment trouvé de modèle. Et quand j'ai commencé à écouter des gens comme Camille, un peu plus tard, il y a eu Bertrand Belin, je me suis rendu compte qu'il était vraiment possible de jouer avec la langue française et d'en faire quelque chose de très poétique, de pouvoir laisser beaucoup de place aussi à la voix. Sans que ce soit connoté chanson à voix, mais qu'il y avait une possibilité de vraiment laisser la voix s'exprimer plutôt que qu'elle soit tout le temps un peu, j'ai envie de dire, un peu enfermée dans un texte qui s'impose un peu de par sa complexité, sa forme un peu rigide. Et ce qu'on appelle les chansons à texte, hein, parce que moi je suis vraiment pas issue de cette culture-là. Et du coup, voilà, c'était une manière aussi de trouver des modèles.
On va poursuivre la programmation avec La Reine Garçon. Le morceau s'appelle L'île Montée. Lequel de vous deux veut nous présenter comme ça très brièvement cet artiste?
La Reine Garçon, c'est le projet... alors, on a fait l'album Muse avec Facteur Chevaux, qui est un super groupe, on va l'écouter je crois tout à l'heure. La Reine Garçon, c'est le projet d'une des personnes de Facteur Chevaux.
Et c'était le morceau Lille de La Reine Garçon, troisième choix de mes invités de ce soir, Karen Lanoux et Olivier Le Gall. Tu as choisi d'enregistrer l'album Muse dans la petite église de Graveron-Semerville, dans l'appartement de l'Eure. Quelle imprégnation le lieu a eu sur l'enregistrement de ce disque ?
Alors oui, Muse, c'est donc le premier album que j'ai enregistré après avoir monté mon label, qui s'appelle Le Chant des Muses. Et donc j'avais choisi de l'enregistrer dans un lieu qui occuperait une place particulière, qui aurait un rôle dans la texture de la musique. Et on a commencé à chercher des petites églises en Normandie, sachant que voilà, on cherchait un peu la résonance de la pierre, mais là, en l'occurrence, celle qu'on a choisie, il y avait aussi une grande structure en bois dans le plafond de l'église. Donc cette église, ça a été une actrice dans l'enregistrement de l'album, à savoir qu'on a eu tous les bruits aussi qui accompagnent la vie d'une église. Les cloches, le voisinage, le chien qui aboie.
C'est proche de ce qu'on appelle les enregistrements de terrain.
Voilà, c'est ça. C'est l'orage. Tout ça, on peut l'entendre sur le disque. J'avais choisi de absolument pas les gommer, au contraire... Je voulais qu'on puisse les entendre.
D'ailleurs, vous pouvez, il y a des vidéos sur Internet, là, sur le YouTube de Karen. On peut voir l'enregistrement de Muse dans cette église. On a trois épisodes qui sont vraiment super. Même nous, quand on regarde ces épisodes-là, on a beaucoup de plaisir à se souvenir de ces moments-là.
Mm. Et on va écouter Facteur Chevaux et on parlera à nouveau des collaborations.
Tu es assis.
Cette musique folk à la beauté crépusculaire que vous entendez en ce moment, c'est Facteur Chevaux, le titre s'appelle Si. Il est extrait de La Maison sous les eaux, sortie en 2016. Je suis toujours avec Karen Lano et Olivier Le Gall qui ne se sont pas sauvés en cours d'émission, ce qui est plutôt bon signe. La réalisation de l'album Muse a été confiée justement au duo folk Facteur Chevaux, duo composé donc de Samy De Coster, on va les citer, hein, et Fabien Guidoyer, pardon. Comment s'est fait le choix de travailler avec eux et quel a été leur rapport au disque?
Alors le choix, c'est un coup de cœur. Je les ai vus, Olivier était avec moi, on les a vus dans un tout petit lieu parisien. Et ça a été vraiment un choc. Et les semaines qui ont suivi, comme j'étais dans la préparation de l'album, je me suis posé la question de la réalisation. Et j'arrivais pas à me retirer de la tête le fait que je voulais travailler avec Facteur Chevaux. Donc j'ai essayé de contourner un peu l'idée parce que je leur avais envoyé un premier message, ils n'avaient pas répondu et j'avais cru comprendre qu'ils étaient quand même assez marginaux, assez hors cadre. Et donc j'étais un peu intimidée, j'avais peur d'insister et puis de me faire un peu envoyer bouler, il faut dire les choses. Et finalement, je leur ai envoyé un deuxième message. Et pour leur dire de manière plus explicite la raison pour laquelle je les sollicitais, à savoir que j'aimerais beaucoup leur faire écouter mes chansons et leur confier la réalisation de mon album. Et ils ont répondu. Et à partir de là, ils ont été extrêmement attentifs, très très concernés et plein de bienveillance envers mes chansons. On a travaillé d'abord en répétition avec mon groupe. Et puis ensuite, ils étaient présents sur l'enregistrement donc, qui a eu lieu dans la petite église de Gravons-et-Merville. On est restés tous ensemble pendant quasiment une semaine à enregistrer les chansons. Donc, ce rôle que je leur ai confié, c'était aussi parce que je les ressens comme des artistes qui sont très intègres et qui ont effectivement une vision un peu jusque-boutiste de la musique, c'est-à-dire une forme de pureté, une forme de non-compromis, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'en avais un peu peur aussi, je pense. J'avais peur qu'ils soient... ils n'aient pas du tout envie d'écouter mes chansons, en gros. Et finalement, ils ont été super. Ils ont accompagné vraiment le disque de bout en bout.
Alors, depuis tes débuts, tu as multiplié les collaborations. On peut en citer quelques-unes. Hein. On en a cité d'ailleurs Daniel Levinec, Michael Leonard, Olivier Libaud de Nouvelle Vague. Tu as tourné avec l'Orchestre National de Jazz, tu le disais tout à l'heure. Comment collaborer avec des musiciens de ce pédigré sans se laisser influencer par leur musique? Et je veux bien une réponse courte, ma chère Karen, parce qu'on a pris un peu de retard pendant ce direct.
Sans se laisser influencer par leur musique.
Ouais.
Je crois que j'en étais même pas là. C'est-à-dire que j'ai collaboré avec eux en me disant que j'étais à l'école et qu'il fallait avant tout les regarder, les écouter.
Et je pense que Muse, c'est un album sur lequel justement on a fait très peu de compromis. Et j'en suis assez fier d'ailleurs. On a été au bout, on l'a enregistré dans une église, on a des morceaux juste percussion-voix, on a des morceaux qui font 8 minutes sur lesquels il y a des solos totalement psychédéliques. On a des choses avec plein de voix et c'est vrai que Karen parlait tout à l'heure d'avoir des réalisateurs qui n'ont pas de compromis non plus et tout a été dans le même sens.
Il faut concilier tout ce monde-là ensemble, c'est pas évident.
Tout a été dans le même sens. Et en fait, faire de la musique, si c'est pour faire que des compromis, moi je vois pas l'intérêt.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Et c'est pour ça que avec Karen, on fait une musique qui est exigeante, mais ça veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, qui nous ressemble, et on a envie de la faire le mieux possible, et on en est fiers aussi.
On va vous entendre en live dans quelques minutes, le temps de deux chansons. Pendant ce temps, on va écouter Vashti Bunuan. J'ai choisi Vashti Bunuan, ce sera mon seul choix pour la programmation de ce soir.
Super.
J'espère, si vous ne connaissez pas, que ça va vous plaire. Le titre s'appelle The Boy, et je vous laisse vous installer, on vous retrouve dans 2 minutes à peine.
Très bien.
He sat on the doorstep with his arms around his knees, watching the passers by and wondering why they don't see what he sees. He watched from the window with his hands over his ears, listening to all the words he'd ever heard. You don't hear
Vous êtes dans l'émission Tour de Piste sur les ondes de Principe Actif. À l'instant, c'était Vashti Bunuan, The Boy, extrait de Her Clip sorti en 2014. On va retrouver en live tout de suite Karen Lano accompagnée de Olivier Le Gall pour La Robe Blanche, extrait de l'album Muse, et puis Vagabond, extrait de l'Extended Player Sortilège.
Te souviens-tu de ma robe blanche? Cette dentelle brodée de cette beauté. Te souviens-tu de la maison dans les bois? Cette lumière dans les arbres du vert nénuphar. Du vent chaud. L'été nous a donné ces moments de grâce. Je ferme les yeux. Te souviens-tu de nos longs silences? Je souriais dans le vague, mes rêveries qui divaguent. Vent chaud, oh, 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 frais des sous-bois. L'été s'en est allé avec ses moments de grâce, et je ferme les yeux. Je sens encore tes regards posés sur moi, le dessin inconnu d'un souvenir ému, d'un souvenir ému, d'un souvenir ému.
Et c'était Robe Blanche, co-composée d'ailleurs par Charlotte Savary, pour ce petit morceau en live dans l'émission Tour de Piste sur les ondes de Principe Actif. On poursuit avec Vagabonde.
Sur les sentiers, vagabonde, j'ai tant erré, vagabonde, j'ai beau méditer, je n'ai toujours pas trouvé le sens des rêves qui m'animent. Qu'est-ce que la vie, vagabonde? Qu'est-ce que l'envie de ce monde? J'ai eu beau cogiter, je n'ai toujours pas trouvé le sens des idées qui m'animent. Tu fais le va-et-vient. danser dans la ronde. Je sondais l'autre monde. J'ai eu beau essayer, je n'ai toujours pas trouvé le sens des élans qui m'animent. Que personne n'en ne réponde, moi je rayonne vagabonde. J'ai eu beau fouiller, creuser, cogiter, essayer, ressasser, penser, songer, je n'ai toujours pas trouvé le sens alambiqué des détours compliqués de tous ces mouvements qui m'animent.
Et dans l'ordre Vagabonde à l'instant, extrait le P Sortilège de Karen Lano, La Robe Blanche, extrait de Muse, donc comme je disais tout à l'heure, co-composé par Charlotte Savary, et c'était Olivier Le Gall à la guitare. Merci à tous les deux.
Merci.
On va écouter Clopel Gag maintenant, très vite, puisque nous sommes très en retard, et puis on reparle de tout ça juste après.
Thank you.
On parlait de nature avec le disque de Karen Lano, enfin la musique de Karen Lano. Clope Elgag est né en Gaspésie, au Québec, à Sainte-Anne-des-Monts pour être plus précis, ça je l'ai appris en préparant l'émission. Là aussi c'est un endroit du monde qui est très connecté avec la nature, on parlait de l'Europe du Nord tout à l'heure. C'est important pour vous deux de cultiver l'imaginaire enfantin à l'âge adulte. On a besoin de s'entendre raconter des histoires, et ça c'est une des fonctions de la musique, il y en a d'autres. Est-ce que le monde d'aujourd'hui, celui de la surabondance de l'image et de l'information, d'après vous, souffre d'un déficit d'histoire? Karen?
C'est la question vache. Vous avez 3 heures.
Moi j'ai la question. Je dis à tout le monde qu'on est très pressé, qu'il faut rendre l'antenne.
Un déficit d'histoire. Alors oui, en tout cas, je pense que cette espèce de surabondance ne va pas dans la culture de l'imaginaire.
Oui,
pour l'imaginaire, il faut du vide. Effectivement, pour laisser de la place à la créativité, il faut du vide, il faut de l'ennui, il faut de l'espace.
C'est le manque qui crée le désir.
Exactement, il faut de l'espace. Donc,
Karen a dit souvent qu'il faut montrer que tout le monde a son imaginaire, tout le monde a de l'espace pour créer. Et malheureusement, dans la société, souvent, on ne laisse pas cette place-là. Quoi.
De moins en moins, d'après vous ou...
Ouais. Mais c'est vrai, je pense qu'on est tout le temps happé par quelque chose. Et quand t'es happé par quelque chose, quand tu t'ennuies pas, oui. Forcément, tu crées pas.
Tu construis rien,
ouais. Construis rien.
Olivier, avant de rendre l'antenne et de terminer cette émission, est-ce que t'as des projets parallèles en marge du projet Karen Lano?
Oui, moi je suis musicien et je travaille sur d'autres projets, notamment un autre projet normand qui s'appelle Appelez-moi François. C'est de la pop. On fait de la pop sur des vieux orgues italiens des années 70. C'est très fun. Et puis en 2023, donc on va sortir un deuxième EP
en 2023.
Et je travaille aussi sur un projet qui s'appelle Akin, qui est une sorte de rock dandy, chanson. Et on va sortir un deuxième album réalisé par Frédéric Lowe, et qui est très chouette.
Des dates à venir? Oui, Karen, tu voulais rajouter quelque chose?
Beaucoup de projets pour Olivier Le Gall, puisque l'année prochaine, oui, moi j'ai un album en préparation là. Mmh. Qui va être dont l'enregistrement va débuter en mars. Voilà, avec en parallèle des dates de concerts en Normandie, sur Paris, avec Marie notamment en duo. Donc une année chargée,
pleine de promesses.
Oui, créative.
On retrouve toutes les infos sur le site, hein, vous tapez Karen Lano.
Oui, sur les réseaux sociaux.
Il y a toutes les dates, la bio, les photos.
Instagram, Facebook, Karen Lano.
L-A-N-O.
Je vous remercie tous les deux, j'ai passé un moment très agréable en
merci
votre compagnie, c'était très chouette de vous avoir. Vous pouvez retrouver évidemment les actualités sur la page de l'émission, elle s'appelle Tour de Piste, une émission musicale sur Principe Actif. Je vous souhaite bien évidemment une excellente fin d'année, on se retrouve l'année prochaine, le 11 janvier précisément à 20h sur les ondes de Principe Actif. On se quitte avec Brigitte, battez-vous, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
kidnapping, de kidnapping, de quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout mon loubar, tu serais mon lascar superstar. Et moi j'ai si peur de